Il est 7h.
Certains essais cliniques réalisés avec ce nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer ont montré une diminution du déclin cognitif de 23%, ce qui semble améliorer la qualité de vie des patients.
Pour la première fois depuis 20 ans, un nouveau traitement autorisé aux États-Unis contre la maladie d'Alzheimer. Lueur d'espoir pour des millions de malades à travers le monde. La nouvelle étape du déconfinement, demain, couvre-feu repoussé à 23h et la fin progressive du travail à distance. Vous verrez que certains salariés la redoutent déjà. Et puis l'art du mystère, un manuscrit en français envoyé aux États-Unis par un auteur anonyme. Ça donne le polar Minuit New York qui vient tout juste d'être publié. Juste après le journal, votre éclairage éco, Nicolas Barré.
Et Google sanctionné en France pour abus de position dominante. Cette décision va avoir des conséquences mondiales.
A tout à l'heure avec Vincent Hervouette pour le regard international, Virginie Fulpin et son édito sport. Et vous Stéphane Bern avec votre expression du jour.
Oui, on dit souvent qu'on nous tient la dragée haute, mais d'où vient cette expression?
A tout à l'heure, le 7-9 démarre, soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Marion Calais pour le journal. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Elles sont plus de 35 millions aujourd'hui à travers le monde. Mais selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourrait presque doubler tous les 20 ans. L'enjeu en termes de santé publique est donc majeur. Et pourtant, depuis deux décennies, aucun nouveau traitement n'avait vu le jour.
En tout cas, jusqu'à hier, car les autorités sanitaires américaines viennent de valider la mise sur le marché d'un nouveau médicament. On va s'y intéresser avec vous, Anne Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Ce traitement suscite d'autant plus d'espoir qu'il s'attaque à l'origine de la maladie et pas seulement aux symptômes, comme c'est le cas pour ceux qui sont disponibles aujourd'hui.
Voilà, ce traitement produit par l'entreprise Biogen est une biothérapie. Autrement dit, ce sont des anticorps qui viennent s'attaquer à la fameuse protéine amyloïde, une protéine qui, chez les malades, a tendance à s'accumuler dans le cerveau et à en gêner le fonctionnement. Ce traitement s'administre sous forme de perfusion, explique le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer.
C'est une excellente nouvelle parce que cela démontre qu'il y a une recherche active pour trouver des traitements contre la maladie d'Alzheimer. Certains essais cliniques réalisés avec ce nouveau médicament ont montré une diminution du déclin cognitif de 23%, ce qui semble améliorer la qualité de vie des patients. Mais il s'agit de patients qui sont à des stades extrêmement précoces du développement de la maladie d'Alzheimer. Donc ce n'est pas pour l'ensemble des patients atteints de maladie d'Alzheimer.
Et les autorités sanitaires américaines restent cependant prudentes pour valider cette mise sur le marché à long terme. Elles demandent que d'autres essais cliniques confirment l'amélioration de l'état des patients. Et en France, il faudra de toute façon attendre pour bénéficier de ce traitement puisque la demande d'autorisation est toujours en cours d'examen à l'Agence européenne du médicament.
Ouais, 56 000 dollars tout de même, hein, le coût annuel de ce nouveau traitement dont les résultats devront donc être validés, précision. Signale Le Gall, merci.
La permission de 23 heures à partir de demain et même dès ce soir pour les 5000 spectateurs du Stade de France qui assisteront au dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro. C'est contre la Bulgarie.
À la veille d'un nouvel élargissement du couvre-feu, ils vont effectivement bénéficier, ces spectateurs, d'une dérogation. Il y aura là des personnels soignants, des forces de l'ordre, des étudiants et des supporters des Bleus invités par la Fédération française de foot. Parmi eux, Claire, habitante du Val d'Oise, rencontrée par Océane Théard pour Europe 1.
Quand on a su qu'on pouvait retourner au stade, ça a été un immense soulagement. Le fait qu'on ait su ensuite qu'on pouvait être 5000, on s'est dit tant mieux, ça y est. Bien sûr, ça reste un grand stade et qu'il va falloir qu'on fasse encore plus de bruit. Mais par contre, on est 5000 supporters. On est vraiment à fond dedans. On va pouvoir avoir peut-être quelques animations, des chants, des choses, démontrer en fait à nos Bleus qu'on est derrière eux. Ce qui m'a le plus manqué au stade, c'est la cohésion. Le fait de pouvoir être tous ensemble derrière une même équipe, de pouvoir pousser notre passion jusqu'au bout pour voir les pousser eux jusqu'à une finale et pourquoi pas un nouveau titre. Je suis prête à chanter, toujours, pour le malheur des autres, tant pis pour eux.
Donner de la voix donc, Claire y est prête, supportrice du club Les Irrésistibles Français, France-Bulgarie. Ce sera à partir de 21h10 et au-delà du couvre-feu étendu donc demain, l'étau sanitaire va aussi se desserrer un peu pour le travail.
Avec un assouplissement du télétravail, autrement dit le début d'un retour progressif au bureau, ce qui ne réjouit pas tout le monde, à l'image de ce salarié rencontré dans la région de Lille par Maximilien Carlier pour Europe 1.
Moi, clairement, je serais très très déçu qu'ils nous imposent de retourner à 100% sur site, clairement. Ouais. Et si c'était le cas, je pense que j'envisagerais de chercher ailleurs.
Mathias, 36 ans, informaticien, télétravaille depuis plus d'un an maintenant. Hors de question pour lui de retourner en open space.
Si c'est pour être assis au bureau avec un masque et faire le même boulot qu'à la maison, bah, j'en vois pas l'intérêt.
Car il a l'habitude de travailler chez lui désormais, seul, sans être dérangé, pas comme au bureau.
Le matin, les gens arrivent, ils te disent bonjour. Entre 7h30 et 9h30, t'es coupé toutes les 5 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Bon, c'était pas quelque chose que j'appréciais spécialement.
Et même s'il n'a rien contre ses collègues avec qui il échange à distance, Mathias préfère la tranquillité, il se décrit comme assez solitaire. Les avantages du télétravail, il en voit surtout un.
De ne pas avoir de route le matin, ça fait gagner énormément de temps parce que, comme tout le monde le sait, la métropole lilloise le matin, c'est complètement bouché.
Une heure de trajet en moins, donc moins de stress, des horaires un peu modulables, plus de temps aussi par exemple pour s'occuper de la maison, voir son fils, bref. Ce salarié comprend ceux qui désirent retourner en présentiel, mais il espère surtout que son choix de poursuivre le télétravail sera respecté par son employeur. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et avant la réouverture des salles de restaurant en demi-jauge demain, déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans la Drôme. Il rencontrera des professionnels du secteur et des jeunes en formation.
La politique est à 12 jours du premier tour des élections régionales. On va s'intéresser ce matin à la Bourgogne-Franche-Comté.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour à tous.
Cette région tenue par la gauche est l'une de celles où le Rassemblement national pense pouvoir s'imposer.
Oui, et d'après Marine Le Pen, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie du top 3 des régions gagnables par le RN. Un récent sondage donne son candidat Julien Odoul gagnant au second tour s'il fait face à 3 autres listes.
Je suis le seul en capacité de gagner la région, ou alors sinon on la laisse à la gauche.
Sauf que Julien Odoul est contesté en interne et qu'il est à nouveau au cœur d'une polémique. Dans un enregistrement, on l'entend parler du suicide d'un agriculteur et demander si la corde est française. Julien Odoul lui assure qu'on veut le salir car il est donné en tête au premier tour.
Mais dans cette région, Claudia, le Rassemblement national, c'est donc l'adversaire numéro un pour tous les autres candidats.
Oui, et face à lui, chacun a sa stratégie. Côté LR, Gilles Platret a fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, pourtant ancien allié de Marine Le Pen en 2017.
Moi, j'ai toujours porté une ambition de droite populaire. Mon alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est exactement une alliance en direction de cette droite populaire.
Côté socialiste, la présidente sortante de la région, Marie-Guide Dufay, est convaincue de pouvoir rassembler une gauche aujourd'hui divisée. Sauf que le seul moyen pour elle de conserver la région, c'est qu'il n'y ait pas de liste en marche au second tour. La situation inquiète ses électeurs comme ici sur le marché de Lons-le-Saunier.
Bon, ça va être dur, mais enfin bon, fais pas alliance avec les En Marche.
À ce stade, la socialiste ne veut pas évoquer cette possibilité.
La gauche, elle peut faire face seule au Rassemblement national. C'est pas à moi à fermer ou à ouvrir des portes. Interroger La République En Marche sur ce qu'ils feront dans ce contexte.
On a posé la question au candidat LREM Denis Thuriot et la réponse est évasive.
Je donne rendez-vous le 20 juin et d'ici là, j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis un combattant, clairement, du Rassemblement national depuis mon engagement politique.
Tout dépendra donc des scores du premier tour pour savoir si la gauche doit s'allier ou non à la majorité présidentielle pour empêcher le RN de prendre la Bourgogne-Franche-Comté.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1 et à gauche, justement parmi les autres candidats, Bastien Faudeau pour une alliance autour de la France insoumise, Claire Rocher pour Lutte ouvrière et Stéphanie Mode pour les écologistes. Au Canada, le ministre de la Sécurité publique dénonce un horrible acte d'islamophobie. 4 membres d'une même famille musulmane pris pour cible hier dans le sud du pays. Un jeune homme de 20 ans leur a foncé dessus avec son pick-up. Acte prémédité selon la police, le suspect a été arrêté.
Est-ce un coup de com' ou une réelle volonté de discrétion? Un auteur inconnu s'invite en tout cas dans les dernières publications de la maison d'édition XO.
Car si le polar Minuit New York est officiellement signé Mark Miller, en réalité l'identité de l'auteur est tenue secrète et pour cause même son éditeur ne la connaît pas, comme nous le raconte Nicolas Carreau pour Europe 1.
Le grand éditeur Bernard Fixeau en avait marre du silence des studios américains quand il proposait des adaptations de ses romans. Alors, il y a 5 ans, il décide de trouver un pied-à-terre à Los Angeles pour traiter directement. Un jour, il reçoit un coup de fil. Numéro inconnu, c'est un homme qui vit en Californie. Il lui explique qu'il a écrit un roman et qu'il aimerait lui faire lire. Bernard Fixeau.
2 jours après, j'ouvre ma porte et donc il y a une grosse enveloppe comme ça. Et je lis. Et je dis, c'était formidable, je trouvais ça vachement bien. 10 jours après, il m'appelle et je lui dis, écoutez, votre livre est formidable, moi je suis prêt à le publier.
L'éditeur lui propose une rencontre en personne pour discuter du contrat, c'est non, anonymat jusqu'au bout. Bernard Fixeau n'est même pas sûr de la nationalité de son auteur.
J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais pas plus que vous. Franchement. Non, mais c'est pas que je veux pas, mais je pense qu'il est français quand même, hein, parce qu'il parle très très bien français.
On n'en saura pas plus, peut-être un timide ou un écrivain déjà connu qui veut se refaire une virginité, ça s'est déjà vu. En tout cas, un auteur imaginatif, tant mieux, c'est quand même la qualité principale d'un bon écrivain.
L'anonymat en littérature, ça peut payer. Un dernier exemple en date, Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, plus de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Le journal signé Marion Calais sur Europe 1, il est 7h10.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Une petite soirée ciné, ça vous dit, ça fait longtemps, une soirée ciné. Bien ça y est, ce sera possible demain avec ce couvre-feu décalé à 23h. Et sur Europe 1 ce matin, on avait envie de vous conseiller une comédie qui aurait dû être à Cannes l'an dernier. Elle a été adaptée du roman de Fab Caro, Un discours, et c'est avec un formidable acteur. Benjamin Laverne la porte à l'écran, vous l'avez connu dans Le sens de la fête, souvenez-vous, il était le marié assez imbuvable, eh bien, il est mon invité dans le tête-à-tête. À 7h40, d'abord l'éclairage écho de Nicolas Barré et votre regard international, Vincent Hervouet.
Oui, Kamala Harris au pied du mur en Amérique centrale pour décourager l'immigration. Elle plaide, elle prêche l'espoir et l'entraide.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Votre éclairage écho sur cette condamnation prononcée en France par l'autorité de la concurrence contre Google pour abus de position dominante. Une décision qui a déjà un retentissement planétaire.
Oui, d'ailleurs, Google le reconnaît puisqu'il va modifier certaines de ses pratiques, non seulement pour le marché français, mais pour le reste du monde. Google est donc condamné en France à payer 220 millions d'euros pour des comportements illégaux dans la publicité en ligne. 220 millions, ça ne représente que 2% de ses profits, c'est peu, mais l'essentiel est ailleurs. C'est la première fois que Google met un genou à terre et signe une transaction avec une autorité de concurrence. La première fois donc qu'il reconnaît ses torts et renonce à faire appel, bref, qu'il admet que l'affaire est grave.
Et c'est important parce que ça risque de faire jurisprudence ailleurs dans le monde.
Oui, alors les autres pays sont en train d'éplucher déjà le travail de l'autorité de la concurrence française. Ça faisait depuis 2019 que ces services enquêtaient sur Google. L'enquête a permis d'établir que le géant américain avait mis en place des outils informatiques qui favorisaient systématiquement ses propres services. Comme l'a dit hier la présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle De Silva, Google était assuré d'être gagnant à presque tous les coups face à ses concurrents.
Et des concurrents qui du coup jusque-là hésitaient à s'attaquer à Google.
Mais oui, parce que face à une telle puissance, on hésite. L'autorité de la concurrence dit qu'elle a souvent été alertée par de grandes entreprises qui se plaignaient des comportements prédateurs de Google, mais qui n'osaient pas porter plainte de peur des retours de bâton. Alors avec cette décision, comme le disait hier Isabelle De Silva, la peur a changé de camp. Google fait l'objet de multiples plaintes pour abus de position dominante aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Longtemps, le groupe californien, avec son armée d'avocats, s'est cru intouchable. C'est en train de changer grâce à une petite autorité de concurrence française. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Mais ce combat va continuer. La vraie sanction désormais, ce serait le démantèlement d'un groupe devenu manifestement trop puissant. Alors ça n'est pas à l'ordre du jour, mais ça peut le devenir.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, chaque matin à 7h10 pour l'éclairage écho. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre regard international, ce matin on reparle de Kamala Harris qui est en tournée en Amérique centrale.
Oui, il y a eu deux surprises avec le retour des démocrates au pouvoir. La première, c'est Joe Biden, ni flappy, ni gaffeur, tirant vite et visant juste. Biden est une publicité vivante pour le pouvoir comme élixir de jouvence. La seconde grande surprise, c'est Kamala Harris, la star de la campagne, dont la presse chantait la légende. Première femme procureure générale, première sénatrice, originaire d'Asie du Sud, elle a toujours été la première dame, comme première vice-présidente. On attendait qu'elle fasse des étincelles. Eh bien, Bernique, Biden prend toute la lumière. Et la rumeur mauvaise prétend qu'elle ne fait rien, débarque chez les gueux avec Air Force Two, écoute les doléances et joue les dames patronesses en promettant d'en parler à qui de droit. Les médias sont aussi malveillants avec elle qu'ils ont été courtisans. Et l'heure de vérité sonne avec sa tournée au Guatemala et au Mexique.
Oui, parce que Joe Biden lui a confié un dossier sensible, le dossier de l'immigration.
Dossier piégé, il l'a collé au pied du mur. En suspendant la construction et en envoyant des signaux encourageants aux migrants, Biden a provoqué une ruée vers la frontière. 180 000 clandestins ont été stoppés. Des milliers de mineurs isolés restent coincés. 2 Américains sur 3 critiquent cette politique. Kamala Harris a pris 78 jours avant d'aller sur le terrain. Elle traîne les pieds. Elle ne va pas rencontrer les habitants des petites villes submergées, désespérées. Elle est de l'autre côté pour comprendre les causes de l'immigration, dit-elle.
Et en plus, son avion a dû rebrousser chemin avec une avarie technique.
Alors, mauvais présage, mais elle est quand même arrivée au Guatemala et elle a supplié les Guatémaltèques « Ne venez pas, vous serez refoulés ». Elle a annoncé un groupe de travail sur la contrebande, un autre sur la traite des êtres humains et un troisième sur les magistrats. Le Guatemala est ravagé par le Covid, 2 ouragans, le chômage massif, la corruption, pire encore. Ne manquait que les comités Théodule. L'Amérique a versé 1 milliard de dollars depuis 10 ans et la pauvreté a empiré. Au Mexique, aujourd'hui, Kamala Harris va s'attaquer au cartel de la drogue et favoriser les investissements massifs. Du moins, elle va en parler, plaider l'entraide et l'espoir. C'est un job impossible, vice-présidente, surtout quand on veut être présidente dans 4 ans et rester l'incarnation du bien, une image pieuse.
Le regard international, signé chaque matin, Vincent Hervouet sur Europe 1. 7h17, dans quelques secondes, place au sport avec vous, Virginie Fulpin.
Et je vous plains, si vous n'aimez pas le foot, hein, vous allez souffrir pendant un mois d'euro. Alors, regardons derrière les buts. Avec le foot, on comprend mieux le monde qui nous entoure.
Maintenant, on a parlé de cinéma, ils sont ouverts maintenant le soir. Avant de retrouver bien sûr Stéphane Bern et son expression du jour. Bon réveil à tous, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 7h20 sur Europe 1, on le disait dans le journal, 5000 supporters vont faire leur retour au Stade de France ce soir. Dernier match de préparation à l'Euro de l'équipe de France. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
L'Euro, le coup d'envoi, ce sera vendredi et autant dire que ceux qui n'aiment pas le foot s'apprêtent à passer un mois compliqué à entendre parler de ces championnats d'Europe en permanence. C'est à eux que vous vouliez vous adresser ce matin, parce que pour vous, avec le foot, on comprend aussi mieux le monde.
Je ne vais pas vous expliquer comment échapper à l'euro, parce que vous n'y couperez pas. Le foot va phagocyter à peu près tout le reste de l'actualité. J'exagère à peine. Regardez, demain, le président Macron et son épouse vont voir les Bleus à Clairefontaine et la compétition n'a pas encore démarré. Alors il va falloir vous y faire, désolé. Mais le foot, c'est tellement plus que des joueurs, des crampons et des maillots. Tiens, le maillot, justement. L'Ukraine vient de présenter le sien. Il est jaune et bleu. Jusque-là, tout est normal. La carte de l'Ukraine est dessinée dessus. Ok, logique. Ah oui, mais cette carte comprend la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Et il est agrémenté de quelques slogans nationalistes. Résultat, Moscou s'est fâché tout rouge, si j'ose dire. En fait, une compétition comme l'Euro, entre des sélections nationales, ne se joue pas que sur le terrain, loin s'en faut. Il y a les coups francs dans le jeu et les coups fourrés en dehors. L'Euro, ce sont des luttes d'influence, une part de nationalisme. Et on peut retrouver dans la compétition les tensions qui existent entre certains pays. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand on considère, par exemple, que les joueurs ne devraient pas mettre le genou à terre pour lutter contre le racisme, parce que la politique n'a rien à faire dans le sport. Elle est là, elle est partout. Et l'exemple de l'Ukraine et de la Russie me semble assez parlant.
D'ailleurs, ça risque d'être assez tendu si les deux équipes, Ukraine, Russie, s'affrontent pendant l'Euro.
Déjà, elles ne sont pas dans le même groupe. Et ce n'est pas le hasard du tirage au sort. Elles ne pouvaient pas être dans le même groupe depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. L'UEFA, l'instance européenne du football, a tout simplement interdit à ces deux sélections nationales de se rencontrer. Même les clubs ukrainiens et russes ne peuvent pas être opposés en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Mais là, si l'Ukraine et la Russie se qualifient pour les huitièmes de finale ou plus, les équipes pourraient très bien se retrouver face à face. Cet euro prendrait encore une autre dimension. Il y a peut-être que grâce au foot que les deux pays pourraient à nouveau discuter. Vous voyez que ce sport peut faire avancer le monde. La géopolitique se cache partout derrière les buts. L'euro nous aide à mieux comprendre le monde. Tiens, d'ailleurs, je vais vous conseiller vivement le livre de Kevin Vessière qui s'appelle Football Club Géopolitique. C'est absolument passionnant. Et vous verrez qu'il n'y a pas des buts, des hors-jeux. Il n'y a pas que ça du tout. Par exemple, il y a Angleterre-Écosse qui est prévu le 18 juin. Mm-hmm. Ça va chambrer sur le Brexit.
Ah, c'est possible.
Et, ouais, et moi, c'est ça aussi qui me fait aimer le foot.
Voilà, le foot au-delà du terrain, ce ne sont pas que des crampons et des maillots. L'édito sport de Virginie Fulpin. À demain. 7h23, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre petit moment d'histoire.
Bonjour Sébastien, bonjour Stéphane. À toutes et à tous. Au travail, dans toute relation, quand des frictions se font, quand des guéguerres de pouvoir se livrent, il faut parfois marquer son territoire, faire la démonstration de sa puissance. C'est l'occasion de tenir la dragée haute à ses concurrents. Mais tenir la dragée haute, c'est l'expression de ce matin.
Quand on tient la dragée haute, bon, bah, c'est résister en montrant son pouvoir. Alors moi, j'entends le mot dragée, ça veut dire qu'on va parler confiserie ?
Oui, enfin, c'est parce qu'on se calme, hein, pensez au summer body. Tout commence au XVIIIe siècle, un jeu pour occuper les enfants faisait fureur. On attachait un bonbon à un fil et il tentait de l'attraper pendant qu'un des deux parents tirait dessus. Sur le fil, hein, évidemment pas sur l'enfant. Et ce, pour éviter qu'il ne saisisse trop vite la friandise. Vous imaginez bien que dans... les familles pauvres, il y avait beaucoup d'enfants et peu de sucreries. Du coup, le jeu pouvait durer longtemps. Et effectivement, celui qui était au bout du filin tenait littéralement la dragée haute à sa descendance. Ah. Dans le même ordre d'idées, mais avec des chevaux, il était de coutume de suspendre des bottes de fourrage vert en hauteur et suffisamment pour que ces derniers soient obligés de faire un gros effort pour se repaître. La botte de sarrasin était d'ailleurs appelée la dragie, qui a donné dragée. Pour l'équidé comme pour les enfants, on leur tenait la dragée haute. Sachez qu'aujourd'hui, en allemand, on dit « accrocher le panier à pain plus haut ». C'est le même esprit, et chez les néerlandais, c'est tenir le saucisson devant le nez. C'est vrai que c'est cruel. Voilà comment le pouvoir peut être une histoire de gourmandise. En fait, c'est Marilyn Monroe qui avait raison, elle qui disait « un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir. »
Et vous tiendrez la dragée haute, Stéphane Bern, tout à l'heure avec Mathieu Noël, cet après-midi, 16h-18h, historiquement vôtre. 7h25 sur Europe 1, à suivre la météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal. À tout de suite. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous. Il fait déjà bon, hein, chaud même dans le sud.
Oui, 21 à Marseille en ce moment, 20 degrés à Nice, 19 à Béziers, Orange. Et paradoxalement, ces villes qui sont les plus chaudes en ce moment ne seront pas les plus chaudes cet après-midi, tout simplement parce que le vent va venir de la mer et qui va rafraîchir l'atmosphère. Je continue quelques températures actuelles. 16 à Paris, 15 à Nancy, 13 à Lille, 12 à Brest. Alors c'est une journée ensoleillée, largement ensoleillée. Bien sûr, ce n'est pas un ciel limpide car il y a encore de l'évaporation dans l'air, donc quelques nuages. Mais quand même, les orages vont sévir sur une partie du pays et ça, ils n'arrivent pas à s'en aller. Hein. Lorraine, Alsace, Franche-Comté, région alpine, Côte d'Azur, Corse, nous avons dans toutes ces contrées un temps souvent agité et ça, c'est pas souvent très sympa puisque cela va durer, comme je disais, au moins encore 2-3 jours. Allez, sur la Manche, les brouillards vont se lever et c'est une journée finalement assez sensible à celle d'hier avec des températures maximales de 23 à 29 degrés.
Laurent Cabrol, on vous retrouvera juste avant 8h. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Presque 7h30.
Ils savent pas faire. Ben nous, on va leur montrer que c'est très simple. Il faut savoir qu'on a lancé la campagne vendredi et nous avons déjà une trentaine de CV.
À Marseille, face au manque de personnel d'un collège, les parents d'élèves ont décidé de recruter. Dans ce journal, la mise en garde de Gérald Darmanin au préfet face à l'explosion des violences post-confinement, l'impatience des restaurateurs à la veille de la réouverture de leurs salles, et puis le dernier espoir français à Roland-Garros avec le duo de rescapés Mahut Herbert en double messieurs cet après-midi.
Juste après le journal, Bertrand Chameroy, La Touche Âme, le tête-à-tête Europe Matin avec le comédien Benjamin Laverne à l'affiche du discours au cinéma. Et votre édito politique, Nicolas Bétou.
Après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ce week-end, l'union de la gauche est-elle encore possible? Et lui, Jean-Luc Mélenchon, a-t-il encore un avenir?
Sans oublier Nicolas Cantelot, juste avant 8h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était une opération symbolique, mais qui semble fonctionner. Ça se passe à Marseille, au collège Giono. Des parents excédés par le manque de personnel encadrant ont décidé de bloquer l'établissement et de prendre les devants en lançant eux-mêmes une campagne de recrutement. Stéphane Frangy s'est rendu sur place.
Les parents d'élèves recrutent, encadrés en rouge sur une affiche très professionnelle. Des offres d'emploi sont détaillées. Ultime recours pour des mamans à bout comme Laetitia.
Ils savent pas faire, ben nous on va leur montrer que c'est très simple. Il faut savoir qu'on a lancé la campagne vendredi et nous avons déjà une trentaine de CV.
Un recrutement sauvage, oui, mais pas symbolique pour les parents d'élèves comme Séverine Gilles qui compte bien aller au bout de cette démarche.
C'est délicat hein, comme opération, on lance un recrutement dont on n'a pas l'argent. C'est engagé de faire passer leur candidature auprès de l'inspection académique et on le fera aussi auprès du ministère pour être certain que les CV ils arrivent quelque part. Mais ensuite on a besoin ben, du budget pour le fonctionnement de n'importe quel collège d'avocats. avoir des surveillants. Une infirmière, on n'a plus d'infirmière, ce qui fait qu'on dérange les pompiers dès qu'il y a un bobo.
Et ils peuvent compter sur le soutien des enseignants solidaires, comme Myriam.
Tous les lieux dans l'établissement ne peuvent pas être surveillés correctement. Par exemple, les toilettes doivent être fermées à certaines heures parce qu'il n'y a pas suffisamment de surveillants. Donc nous, on est à leur côté.
Reçus par l'inspection académique, ils n'ont pas obtenu les réponses espérées. La campagne de recrutement continue. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Des féminicides, des violences familiales, des tirs contre la police, la crise sanitaire et notamment le confinement ont-ils provoqué une explosion des frais de violence?
C'est en tout cas l'inquiétude de Gérald Darmanin qui vient d'ailleurs d'envoyer une note au préfet pour les mettre en garde et surtout leur demander d'agir face à la montée de cette violence. Louis Dragnel, vous avez pu consulter ce télégramme, alors quel est l'objectif du ministre de l'Intérieur?
Tout d'abord, Gérald Darmanin souhaite montrer qu'il a saisi le problème. Il est conscient de la montée de l'extrême violence ces dernières semaines. Il donne même un chiffre, les interventions du RAID et du GIGN contre des forcenés ont augmenté de 137% par rapport à la même période l'an dernier. Autre chiffre, selon le ministre de l'Intérieur, sur les 5 premiers mois de l'année, les faits de violence intrafamiliale ont progressé de 20% par rapport à 2020. En fait, Gérald Darmanin, qui ne veut pas passer pour laxiste, établit un lien entre cette violence et les conséquences de la crise sanitaire. Face à ce constat, il demande donc au préfet de lui faire remonter leurs analyses, département par département, un état des lieux à rendre avant demain, un délai très court pour ces préfets qui devront aussi proposer des solutions de traitement. A noter enfin, le premier flic de France profite de ce courrier pour vanter sa politique, notamment en mettant en avant une stabilité des violences urbaines. Et pour lui, l'augmentation des actes de violence, souvent très médiatisés, ne doit pas occulter son bilan, notamment dans la lutte contre les stupéfiants.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Les procureurs exigent plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales. Ils réclament que chaque parquet soit doté d'un assistant spécialisé ou d'un juriste assistant dédié spécifiquement à cette grande cause nationale.
Emmanuel Macron est attendu dans la Drôme aujourd'hui à la rencontre des restaurateurs à la veille de la réouverture des salles, nouvelle étape du déconfinement.
À la veille aussi du nouveau couvre-feu à 23h. Alors, les professionnels sont-ils prêts? Victor Pourchet est allé leur poser la question.
Uniquement des bruits de couverts et de vaisselle pour l'instant, mais dès demain, les clients pourront s'installer à nouveau dans la salle du Cœur de Braise à Paris. Et pour le gérant, Yvan, même avec ce beau soleil, ce sera un petit plus.
C'est vrai que ça va changer. Au bout d'un an et demi de non-restauration à l'intérieur des restaurants, franchement, ça va être canon pour tout le monde.
Surtout que les réservations augmentent, plus 134% par rapport à l'année dernière, selon le site de réservation The Fork. Giorgio dirige la crêperie Le Petit Jocelyn à Paris. Il va chercher du renfort.
J'ai retrouvé 100% de mon staff. Et effectivement, vu que les clients sont là, je risque d'avoir besoin de recruter dès la semaine prochaine. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, on est prêt.
Mais le vrai retour, ce sera à la fin du mois, quand les jauges seront levées. Et les professionnels, comme Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, sont très confiants.
Quand les clients viennent, on sent qu'ils se font plaisir et donc dépensent plus.
10% d'augmentation de la note pour un quart des clients. Signe d'un enthousiasme réel et coup de pouce bienvenu pour les restaurateurs.
Victor Porcher. Dans l'actualité aussi, ce vaste coup de filet à travers le monde contre le crime organisé. Des centaines de personnes arrêtées à travers la planète grâce à 3 années d'enquête et la collaboration des polices de plusieurs pays. Opération gigantesque rendue possible grâce au décryptage de communications de réseaux criminels.
Et puis ce sont les deux derniers survivants français à Roland-Garros, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut vont tenter en double de sauver l'honneur tout à l'heure.
Un quart de finale en double, messieurs, ce sera contre les Serbo-Bosniaques Kakic et Berkic. Et malgré l'absence de joueurs tricolores dans le tournoi simple, le duo français donne de l'espoir aux supporters, comme l'a constaté Johanna Chabas dans les allées de Roland-Garros.
Ouais, je trouve qu'ils sauvent bien l'honneur, ça fait plaisir.
Clémence a toujours du mal à se remettre de l'élimination de Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et de tous les autres Français en simple. Alors forcément, le quart de finale en double de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut la réconforte.
C'est vrai qu'à chaque fois, ils arrivent à nous sauver un peu la mise et puis ça fait vivre un peu ce Roland-Garros, ça donne un peu de joie aux Français et puis on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Allez les Bleus!
Parce qu'elle pense que le duo français peut aller jusqu'en finale et pourquoi pas l'emporter comme il l'avait fait ici en 2018. Laurent estime qu'ils ont toutes les qualités pour y arriver.
Ils se complètent dans leur jeu, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On sent qu'il y a une grande complicité entre les deux. Complicité qui fait qu'ils arrivent justement à battre les meilleurs. Quoi. Voilà, on va les encourager, on est tous derrière.
Une ferveur du public très appréciée par les deux joueurs. Après leur qualification en quart, ils ont dit vouloir aller le plus loin possible pour rendre heureux tous les Français qui les soutiennent.
Johanna Chabas à Roland-Garros pour Europe 1.
Radio officielle, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Le journal de Roland-Garros, désormais chaque matin, juste après le journal de 8h. tout à l'heure. C'était le journal de Sophie Echen, 7h36.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et après le tollé déclenché par les propos complotistes de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise, est face à Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 à 8h15. D'abord, je reçois le comédien Benjamin Laverne à l'affiche demain au cinéma du Discours, une comédie qu'Europe 1 avait envie de vous faire découvrir ce matin. Le tête-à-tête à suivre juste après Latoucham. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Sébastien. Information l'Obs. Si le président a accéléré le déconfinement, c'est à cause des Français. Pas grâce, à cause.
À tout de suite sur Europe 1, 7h35.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h20 sur Europe 1, c'est l'heure de la Toucham, comme chaque matin, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien. Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. On commençait seulement à s'y attacher. Demain, il nous quittera déjà. Le couvre-feu à 21h. Fini les verres engloutis en 10 minutes comme des soifards à la sortie du bureau. Nous gagnerons 2 heures de temps additionnel, 120 minutes de plus pour boire des spritz à 16€ sur des terrasses en bois de cagette entre deux Fiat Panda. Ah, la douceur de cette liberté retrouvée. Et à propos de déconfinement, est-ce que vous savez ce qui a poussé Emmanuel Macron à l'accélérer, Sébastien?
La
baisse des taux d'incidence peut-être, la stabilisation des chiffres en réa probable, l'augmentation du nombre de vaccinés pas impossible, mais une autre raison qu'on n'aurait pas forcément imaginée a motivé le président, c'est celle-ci.
Bonjour, on va parler aujourd'hui de pain et en particulier de la façon dont on prépare le pain avant sa cuisson.
Vous avez gavé le président avec vos tutos sur les réseaux. Ce n'est pas une vanne, c'est l'Obs qui révèle cette info, je cite. Emmanuel Macron passe beaucoup de temps sur Internet. Il aurait accéléré le déconfinement en observant la multiplication des tutos de cuisine et de bricolage. Signe selon lui que les Français étaient en train de s'installer dans un mode de vie artificiel. Faire son pain et d'accord, s'occuper comme on peut quand on ne peut rien faire d'autre que rester chez soi serait donc un mode de vie artificiel. Une sortie qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des petites phrases d'Emmanuel Macron qu'aurait très bien pu prononcer Hubert Bonisseur de la Batte, le personnage incarné par Jean Dujardin. Après OSS 117, découvrez Emmanuel Macron. OSS 2022. Vous voyez Instagram ? Ça fait un petit moment que je l'observe et les Français ont un comportement étrange. Moi qui pensais qu'en les privant de sortie, ils consommeraient sur la toile pour faire tourner l'économie, je dois reconnaître que j'ai fait chou blanc. Voilà qu'ils se laissent pousser les cheveux et fabriquent leur propre nourriture. Faire son pain soi-même, quelle drôle d'idée. Je vois pas bien l'intérêt de se prendre pour un zadiste. J'ai été élu président de la France, pas de Notre-Dame-des-Landes. Si ça continue comme ça, on va se retrouver avec 67 millions de joueurs de bolas enflammés. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le vrai monde, il achète. Et dans les magasins. Les tutoriels, le pain au levain et les cours de yoga, ça va 5 minutes. On est en 2021, les enfants. Il s'agirait de rouvrir. Comment est votre Blanquer? Il joue à la marelle dans une école. Habile. Allez, repassez-moi mon costume en alpaga. Ce soir, je dîne avec Patrick Sébastien à Saint-Cyr-la-Popie. Entendre ce que la France de Jeff Panaclock a à me dire me fera le plus grand bien. J'aime débattre. OSS 2022, actuellement sur vos écrans.
Joli. Oui, comment est votre Blanquer? OSS 2022. Bertrand Chameroy, la Toucham, chaque matin, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Vous l'avez connu dans Le sens de la fête aux côtés de Jean-Pierre Bacri. Souvenez-vous, Benjamin Laverne jouait le rôle du marié, ce personnage assez imbuvable.
Ce soir, c'est mon mariage. Donc, je veux pas de jeu débile.
Jeu débile.
Pas de chaise musicale.
Pas de chaise musicale.
Et je veux surtout pas les chiffons qui tournent.
Et ce rôle lui a valu une nomination au César du meilleur espoir. Benjamin Laverne est de retour au cinéma et il est mon invité ce matin sur Europe 1.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour Benjamin Laverne.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio d'Europe 1, merci d'être avec nous. Le Discours, c'est le titre de ce film qui sort demain et dont vous tenez le premier rôle. Film qui aurait dû être présenté à Cannes il y a un an.
Déjà.
Et qui aurait dû sortir ensuite pour Noël. Finalement, il sort cette semaine. Quel soulagement, j'imagine, de le voir enfin sur les écrans.
Ah bah oui, enfin. C'est vrai, ça aurait pu être le titre du film, enfin. Pour moi, pour moi en tout cas. Bah non, mais c'est rare d'avoir un si beau rôle, de tenir comme ça un film de bout en bout. Donc c'était une pression déjà, un défi à relever. Et donc voilà, quand on recule le jour de la sortie, forcément le trac, l'envie que le film rencontre son public se décale. Et donc là, oui, c'est un peu une libération.
Ouais. Et vous arrivez au moment où le couvre-feu va être décalé, où la jauge va augmenter dans les salles. Il y a une envie d'aller au cinéma chez les spectateurs, là.
Bah, j'ai l'impression, c'était bouleversant, ces images-là de la réouverture, des chiffres records. Franchement, j'avais quasiment les larmes aux yeux, quoi, de me dire, c'est génial, le public est là, a envie de cinéma ensemble, de grand écran. Et voilà, c'est là qu'il y a une offre démesurée sur les plateformes. Et heureusement, l'expérience de cinéma, je pense, va résister encore longtemps.
Il y a une envie d'aller rire au cinéma. Et en l'occurrence, ce discours, donc, c'est celui que doit prononcer votre personnage, Adrien, au mariage de sa sœur. Et pour lui, c'est l'angoisse absolue. On écoute un morceau de la bande-annonce.
Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie.
Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là.
Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout, la chenille.
Je peux pas, je mange. Non, 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 je peux pas.
C'est une machine à broyer les orgueils.
Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours. Pardon, mais c'est vraiment
pas marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille.
La noix de muscade, c'est une excellente
idée. Ta gueule.
Benjamin Laverne dans le discours de Laurent Tira. Dites-moi, décidément, après le sens de la fête, vous êtes habitué au discours de mariage,
je crois. C'est un pur hasard. Mon personnage est un peu plus sympathique, je crois, je l'imagine, j'espère. Quoique le premier, dans le sens de la fête, adore ça. Il
oui,
est absolument ravi. L'audience un peu moins. Oui. Mais là, Adrien est terrorisé par le fait de dire un discours.
Il est angoissé, il est torturé, il est névrosé, il est hypochondriaque. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ?
Il me ressemble. Voilà, je me suis identifié. Non, je plaisante. Quoique, je pense qu'on s'identifie toujours un petit peu. En tout cas, je l'ai compris. Moi, je peux cogiter beaucoup, être beaucoup dans ma tête. Donc, j'ai eu de l'empathie pour lui. Et j'ai voulu le défendre. Et je pense qu'aussi, c'est parce que c'est un personnage complexe. Parce qu'il est désespéré, ça est drôle.
Tout le film se passe autour de la table d'un repas de famille. Alors, c'est assez animé. On va dire que la communication est assez compliquée dans cette famille. Et lui, en plus, attend un texto.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il envoie un message donc à son ex. Pas vraiment, il est en pause, ce qui est un statut très particulier que beaucoup de gens ont peut-être traversé, être en pause, en couple. Et il envoie un message et il voit qu'elle a lu. Et ça le transporte de joie. Et donc, c'est dans cette disposition qu'il arrive à un dîner de famille qui va vite le faire déchanter, puisqu'on parle de chauffage au sol. C'est assez ennuyeux. Son beau-frère, joué par Kian Kojandi, fait l'intellectuel. Enfin, c'est un dîner profondément ennuyeux. Et il n'a pas, au bout de seulement 3 quarts d'heure, il n'a pas de réponse de Sonia. Et ça va vraiment l'affecter.
Autour de vous, il y a Sarah Giraudot, François Morel, Kian Kojandi. C'est une comédie, c'est drôle, c'est piquant, c'est absurde aussi parfois. Et alors on retient cette mise en scène qui est particulière parce qu'on est vraiment dans votre tête. On vous entend parler et vous vous adressez directement au spectateur finalement.
C'est vraiment la singularité de ce film. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'était la forme de cinéma. Décalé, poétique... C'est comme un journal intime. C'est-à-dire que je m'adresse au spectateur et je lui confie mes névroses, mes angoisses, mes peurs, mes fantasmes. Déjà, l'histoire, elle est barrée. Hein. C'est Fab Caro, quand même. Fab Caro, ce grand auteur notamment de BD, qui a écrit ce roman, Le Discours. Et donc, c'est main dans la main avec Laurent Tirard que s'est construit le film. Et voilà, oui, en effet, je pense que c'est pas un film qu'on voit tous les jours, notamment dans sa forme, dans sa mise en scène.
Ça n'a pas dû vous déplaire, cette mise en scène, vous qui êtes d'abord un homme de théâtre, sociétaire de la comédie française, je le précise quand même.
Oui, moi j'adore quand il y a un peu de théâtre au cinéma, quand c'est ludique. Il y a même un double, à un moment donné, il y a mon double, je me parle à moi-même. On s'est beaucoup aussi amusé à pousser les situations un peu dans l'absurde. Parce que le film l'autorise.
Le discours, donc, comédie sur les rapports familiaux, on pense forcément à un air de famille en voyant cette famille autour de la table. On pense aussi à Jean-Pierre Bacri, avec qui vous avez partagé l'affiche dans le sens de la fête. Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs de cette expérience avec lui à ses côtés ? Qu'est-ce qu'il vous a appris, Bacri ?
Bacri, c'est une leçon de jeu, d'humanité aussi. C'est rare, les acteurs qui peuvent autant vous faire rire et vous bouleverser. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Est-ce qu'il est grincheux ? Est-ce qu'il est désagréable ? Et en fait, quand il vous serre la main, il y a une chaleur, un regard. Il est là avec vous. Et ce qui était terrible, c'est que je le regardais. J'étais spectateur, en fait. Tout d'un coup, je le regardais et il me faisait « Oh, faut jouer là !»
Même en jouant la scène.
Ben oui, je jouais la scène et à un moment donné, j'avais des mini-absences parce que il me fascinait. Quoi. Je me disais « Ah là là, la rupture là !» Et c'est un musicien, c'est surtout ça. La comédie, c'est de la musique. C'est-à-dire qu'il fait comme ça ou comme ça. Enfin, c'est-à-dire que la note près, il fait naître le sens comique de la phrase. Quoi. Parce que sur le papier, on se dit « ok ». Et il l'a dit tellement comme il faut, tellement au bon endroit, à la bonne note, qui vous fait rire forcément. Et puis c'est un maître du timing. C'est une Rolls, quoi. Donc forcément, en fait, il vous fait jouer bien parce qu'il vous tire vers le haut. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer.
Et vous la travaillez à votre tour, cette musique ?
Ouais.
Ce rythme.
Moi, ça me passionne, la comédie. Je crois que c'est ce que je préfère peut-être un peu, même dans ce métier. Et de travailler cet art et de voir comment, voilà, essayer d'être le plus précis possible et de le considérer comme un art majeur, quoi. Autant que la tragédie, de le prendre très très au sérieux.
Merci beaucoup d'être passé par Europe 1 ce matin, Benjamin Laverne. On vous verra donc dans le discours de Laurent Tirard qui sort en salle avec Sarah Giraudot, avec Kian Kojandi, avec François Morel également. Merci à
Julia
vous.
Julia Piaton aussi. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci
bonne journée.
Vous. Merci infiniment.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et sachez que l'auteur du roman Le Discours, Fab Caro, sera dans Culture Média tout à l'heure avec Philippe Vandel, ce sera à partir de 9h. Il est 7h49, à suivre l'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h52, bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Sébastien.
Directeur du journal L'Opinion, votre édito politique. Après ces déclarations controversées prédisant un attentat à la veille de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon est intervenu hier en personne à la tribune de l'Assemblée nationale.
Il fallait s'y attendre, il fonctionne toujours de la même manière Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois qu'il déclenche une polémique, il a un truc. Il s'arrange pour faire le lendemain une déclaration solennelle à l'Assemblée. Après ces élucubrations de dimanche et pour gommer les effets dévastateurs de cette vision complotiste de l'actualité, il a saisi l'occasion du débat sur la PMA pour condamner une vidéo violente mise en ligne par deux abrutis déchargeant leur fusil sur un mannequin censé représenter un électeur de la France insoumise. Rien à voir, bien sûr, avec le sujet, sauf que ça lui a permis de s'offusquer, d'en appeler au sursaut, de convoquer tout le vocabulaire de la bien-pensance républicaine. Manière de rassurer sur son état d'esprit.
Oui, parce que pendant ce temps, la polémique qu'il avait déclenchée a continué.
Oui, et la question qui se pose désormais dans une partie de la gauche, chez les socialistes en particulier, c'est Mélenchon est-il devenu infréquentable ? Et c'est un sujet clé. Samedi prochain, par exemple, le leader de la France insoumise doit participer à une marche contre les idées d'extrême droite. Il y aura quelques syndicats, des associations, peut-être des petits partis, mais personne, ni du PS, ni du Parti communiste. C'est la désunion de la gauche.
Oui, une désunion qui ne date quand même pas des polémiques du week-end. Non ?
Bien sûr que non, l'union a toujours été un combat, mais le talent des grandes figures historiques de la gauche unie, c'est de ne jamais avoir renoncé à concentrer leurs forces. Bon, c'est bien ça la nouveauté. Le côté scandaleux de la dérive complotiste et communautariste de Jean-Luc Mélenchon rend désormais quasi impossible une union de la gauche. C'est un tournant pour cette famille politique aujourd'hui dispersée parce que, compte tenu de l'état des forces politiques en présence en France, la gauche ne peut espérer reconquérir le pouvoir que si elle est unie. Pas forcément au premier, bien sûr, mais certainement au second tour d'une élection.
Est-ce que ça peut jouer dès les prochaines élections régionales ?
Depuis dimanche, les partenaires de la France insoumise dans au moins 3 ou 4 régions doivent être un peu gênés aux entournures. Alors, on ne sait pas ce qui se passera pendant la campagne, on verra bien. Mais vous savez, c'est un phénomène bien connu des créateurs d'entreprises. Il arrive qu'au bout de plusieurs années, le fondateur devienne le principal obstacle à la poursuite du développement de la boîte. Eh bien, ce temps est peut-être venu pour la France insoumise.
L'édito politique signé Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion. Merci, à demain. Et à 8h05, c'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup. Comme chaque matin, il conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Et tiens, justement, c'est Adrien Quatennens, le coordinateur de la France insoumise, qui sera face à Sonia Mabrouk à 8h15. Nelson Montfort est venu lui dire un mot.
Oui, tout à fait, mon cher Sébastien Krebs, mon cher Nicolas Bétou. Je suis ravi d'être là ce matin pour cette épreuve sportive à laquelle va participer, vous le savez, l'athlète Adrien Quatennens, l'épreuve d'aviron, parce que je peux vous dire, vous affirmer que pour justifier les propos, nous l'avons entendu avec Nicolas Bétou, les propos de Jean-Luc Mélenchon, il va ramer le gamin. Je peux vous dire que si Adrien Quatennens réussit cet exploit, il est bon pour décrocher l'or olympique en 4 couples sans barreur en aviron à Tokyo, début de l'épreuve à 8h15 avec à la barre Sonia Mabrouk.
Merci à vous Nicolas Canteloup, on retrouve bien sûr pour la revue de presse à 8h40 et donc Adrien Quatennens, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. À suivre, la météo et le journal de 8h. 7h58, Laurent Cabrol, on continue ?
Continue. C'est un peu le même temps qu'hier, donc il y a de la continuité. Mais si vous êtes dans l'est de la France, sur tout le flanc est, hein, je parle de la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, donc vous voyez tout le flanc est. Si vous êtes dans cette partie de la France, vous faites grise mine parce que il ne fait pas très très beau. Hein. C'est un temps orageux, c'est un temps nuageux. Il y a même quelques petites brines ce matin, des petites pluies aussi. Bref, vous dites bon sang, mais pourquoi nous ? Eh bien, tout simplement, l'explication, c'est une explication que vous connaissez par cœur. L'anticyclone, il est sur le golfe de Gascogne. même loin, moins loin de vos jumelles, hein, loin, où il est loin. Et avant qu'il arrive pour protéger les régions de l'Est, eh bien, c'est pas encore demain. Et malheureusement, vous allez conserver ce type de temps pendant encore pratiquement 2-3 jours. Pour ce qui est de la température de toutes les autres régions où il fera beau, hormis celles que je viens de citer, eh bien, nous aurons des valeurs de 31 degrés à Nîmes et à l'Est, 29 à Bordeaux, 28 à Toulouse, 27 à Paris, à Nantes et Limoges, 26 à Reims et Lyon, 25 à Amiens, 24 degrés à Nice et Clermont-Ferrand, Dijon, Nancy, Verdun, Quimper, 22-23, 21 à Cabourg et 19 degrés à Cherbourg. Et les températures vont continuer à grimper, elles vont monter de plus en plus dans les jours qui viennent. Nous atteindrons même franchement un temps de 30, 32, 33 températures durant le congé de fin de semaine dans les régions du sud-ouest. Ça va vraiment chauffer. C'est l'été qui s'installe.
Qui s'installe vraiment. Bon. Oui. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes le mardi 8 juin. On écoute Le Monde changer.